Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc une nouvelle émission Trou Noir. Aujourd'hui on a pris un certain risque, on a invité dans nos locaux un inadapté social, hein, enfin un P3, hein, je crois qu'il a, enfin, il nous expliquera un peu tous ces termes militaires, voilà. Patrick Schindler, ceux qui nous suivent savent qu'on l'a déjà invité. On a fait une tranche de vie, mais dans cette tranche de vie, il y avait cette tranche importante quand même du passage à l'armée qu'on avait évoqué rapidement. Mais à l'époque, tu étais en train de préparer la sortie du livre dont on va parler aujourd'hui. Donc je donne tout de suite le titre. Contingent rebelle, récit non réfractaire au service militaire dans les années 1970, de Patrick Schindler. Voilà, donc en plus de ça,
oui. Aux éditions L'Échappée.
Voilà, aux éditions L'Échappée.
Qui est pour une fois, c'est pas aux éditions Libertaire, faut le dire.
Et de toute façon, la fin de l'émission, je pense que comme tu es en train de le présenter à divers endroits, notamment en province, tu rappelleras pour les éditeurs qui sont en province où on peut aller discuter avec toi de tout ça. C'est quand tu étais un élément à surveiller, d'ailleurs même encore maintenant, on te surveille. Hein. Voilà. Enfin, donc tu vas raconter un peu tout ça, tout ce qui t'est arrivé. Bon, peut-être avant de... Oui, je vais d'abord dire que ce... Enfin, ça tu expliqueras plus en détail, mais que ce livre est issu d'un... Et ça, ça a son importance, d'un cahier que tu as tenu dans cette période un peu difficile, mais avec des joies aussi, on va bien le voir, qui t'a permis donc de sortir ce livre. Et c'est... D'ailleurs, je dois dire tout de suite d'entrée que pour quelqu'un qui avait 18 ans, on sent que tu avais déjà quand même lu, tu as déjà écrit, parce qu'il y a vraiment un style que moi j'ai trouvé très agréable. Enfin, c'est un bouquin très agréable à lire, avec un contenu très intéressant, bien sûr, avec aussi des côtés amusants. Enfin, moi, je me suis bien plu à lire ce livre, donc j'espère qu'il y aura pas mal d'auditeurs, s'ils ne l'ont pas encore fait, qui l'achèteront, donc... Alors aussi bien pour ceux qui sont à Paris, à la librairie du Monde Libertaire, mais aussi on le trouve, je pense, dans les librairies en province, voilà. Donc peut-être pour démarrer, mais comment toi, si tu veux, si je me souviens bien, dans la tranche de vie que tu en as évoquée, t'avais quand même déjà fait tes classes, si je puis dire, à Buffon, puisque t'avais réussi à te faire virer du lycée, notamment pour avoir créé le CRAB, si je me souviens bien, le collectif radical anarchiste de Buffon, bon, t'avais fait pas mal de choses, voilà. Donc tu étais en contact déjà avec la Fédération anarchiste. Et là, te voilà, comment ça se fait que tu te retrouves à l'armée à 18 ans en plus, quoi. Tout jeune et tout, avec... Bon, moi j'imagine, hein, d'ailleurs, il y a une belle photo sur la première page, enfin sur la couverture. Bon, on voit Pat, qui est mignon comme tout, habillé en militaire, hein, avec un calot et tout ça, avec Charlie Hebdo dans les mains, dans lequel écrit « Merde à l'armée », voilà. Alors comment ça se fait quand même que tu te retrouves à l'armée? T'as, je sais pas, on t'a quitté, enfin non, plus exactement, le lycée Buffon t'a quitté. Non, je te passe un peu la parole ensuite.
Eh bien écoute, le bouquin est sorti il y a 3 mois et c'est une question qui revient souvent. Donc c'est une question qui doit être, je veux dire, percutante, enfin pertinente. Mais pour répondre à la première question, oui, c'est issu d'un journal. Il faut dire que j'ai très tôt commencé à écrire des journaux, enfin ce qu'on appelle des journaux perso, quoi. Voilà. Ça, c'est une c'est une habitude que j'avais prise très, très jeune, ado, et que j'ai perpétuée puisque j'en ai écrit pratiquement toute ma vie, en arrêtant à certaines périodes. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, quand je fais le compte maintenant à 62 ans, c'est que j'écris plutôt des journaux intimes, hein, ce qu'on appelle le journal intime, dans les périodes où ça ne va pas. Je me suis aperçu sur, parce que j'en ai pas mal à la cave, que j'ai jamais relu d'ailleurs, un jour peut-être je le ferai, mais par contre quand je les ai parcourus, j'ai parcouru les époques, c'est effectivement des époques qui étaient un peu difficiles où j'écrivais des journaux intimes, c'est marrant, il y a des gens pour lesquels c'est le contraire. Bah moi j'ai l'impression que les périodes plutôt agréables de ma vie, j'ai pas eu à les écrire, c'était un petit peu le contraire, ça me servait de psychanalyse.
Marc, même dans j'anticipe un peu, mais même dans ton cahier, enfin que tu as transcrit dans le bouquin, à un moment tu dis ah bah j'ai pas écrit pendant un mois parce que j'étais assez pépère, tout se passait bien quoi, donc même à l'intérieur de ce cahier ça continue.
Exactement, oui c'est ça. Et donc en fait l'histoire de ce bouquin, très vite, on peut l'évoquer, c'est que effectivement, j'ai écrit ça en direct à l'armée. Il faut avouer que les éditions de l'Échappée m'ont aidé à le réécrire. Donc, c'est pas tout à fait sa forme initiale. Cela dit, ils n'ont absolument pas touché au fond, mais un petit peu à la forme, parce qu'en fait, il s'agissait un petit peu de rendre la lecture, disons, un peu plus facile pour les jeunes générations. Il y avait des termes qui avaient changé, etc. Donc, j'étais entouré d'une équipe sympa qui m'a aidé à le réécrire. Il faut dire que ce bouquin, je l'avais déjà édité une première fois aux éditions Savelli en 78, qui avait très bien marché, puis les éditions Savelli ont chuté, et donc il était épuisé. Et puis, il a une petite histoire ce livre, c'est qu'on m'avait proposé, entre autres les éditions Libertaire m'avaient proposé de le réécrire, ce que j'avais fait, je l'avais réécrit une deuxième fois, à partir du journal. Un camarade qu'on connaît bien, Benoît Rey, m'avait dit, il faudrait le réécrire encore. Donc, une troisième fois, je l'ai réécrit. Ensuite, Jean-Marc Reynaud, des éditions Libertaire, m'avait dit, écoute, là, je l'avais fait lire à un copain qui a disparu maintenant, mais Fred Ladris, qui lui aussi m'avait dit, c'est bon. Et puis moi, au bout de trois fois de le réécrire, ce truc-là, j'avais dit, j'abandonne, ça m'emmerde. Je laisse tomber. Et en fait, par hasard, j'ai donné le manuscrit tel quel, donc la troisième version, à Cédric des éditions d'Échappée. Lui m'a dit, non, il faut absolument que tu produises ce bouquin. Parce qu'il faut quand même signaler que c'est le seul journal témoin de cette époque. Quand on regarde sur Internet ou même ailleurs, moi je vais très souvent à la BNF, il n'y a pratiquement aucun ouvrage, il n'y a même aucun ouvrage qui fait référence à ces trois années un petit peu clés pour, l'antimilitarisme d'après 68. Aucun bouquin n'a été écrit. On trouve sur Internet des récits, d'ailleurs je crois qu'on les cite dans le livre, qui sont des récits des gens soit de la Ligue communiste, donc... qui était assez présent dans dans ces mouvements de des appelés au service militaire, contre le service militaire. Et puis il y a aussi une thèse qui a été faite très intéressante par un jeune il y a 5 ou 6 ans, où lui a fait énormément de recherches, mais effectivement il n'a trouvé aucun ouvrage qui en parlait. Donc mon éditeur m'a dit faut absolument y aller, parce que c'est quand même un témoignage important, on a un petit peu oublié cette histoire. Alors ça, c'était la première partie de ta question.
Oui, mais ce qui est intéressant, je passe aussi la parole, c'est que à la fois tu évoques en arrière-plan, en parallèle avec ce qui t'arrive, évidemment l'appel des 100, les comités de soldats, les manifs en uniforme, tout ça. Donc, mais en même temps, ce qui est intéressant, moi, cet aspect-là, je le connaissais un peu puisque j'ai traversé. Par contre, je savais pas du tout comment ça se passait dans les casernes à ce moment-là. Comment agissaient les appelés? Est-ce que tous les appelés étaient sur cette position-là? Est-ce que c'était minoritaire? Comment réagissaient les gradés? Comment ils arrivaient à manipuler ou à contrôler ces éléments quand même assez subversifs? Et ça effectivement, on le trouve nulle part.
Ouais. Alors, effectivement, donc, très vite, pour répondre à la deuxième partie de la question, tu me demandais... pourquoi j'ai pas échappé? Il est très clair que moi, j'étais pas suicidaire, mais presque, j'ai carrément devancé l'appel, étant tellement persuadé que je le ferais pas. J'avais plusieurs raisons de penser ça, notamment mon engagement politique, parce que j'étais déjà adhérent de la Fédération anarchiste, comme tu l'as dit, depuis 72. J'avais aussi milité au Front homosexuel d'action révolutionnaire. Notamment, j'ai signé l'appel des 100. Sachant que je risquais de faire les 3 jours et d'être pris, je me suis dit, en signant l'appel des 100 qui venait juste d'être produit par, il faut bien le dire, c'était une initiative de la Ligue communiste, des trotskistes. Moi, j'étais un art, mais cela dit, je me suis dit, je vais signer cet appel, parce que déjà, en le signant, je suis à peu près sûr qu'on ne me prendra pas l'armée.
D'accord.
Bon, grosse bêtise, plus un copain à moi, je le raconte dans le bouquin, qui m'avait dit, bah, tu sais, t'es homosexuel, de toute façon, comme j'étais au phare, et donc revendiqué déjà militant anarchiste homosexuel, et j'en passe. Donc il me dit, bah, écoute, tu risques rien, de toute façon, pour t'en débarrasser. Comme je le dis dans le bouquin, et comme les gens de notre génération le savons, on faisait tout pour échapper au service. Surtout nous, les militants déjà un petit peu engagés avant de le faire, tout était bon pour y échapper, et j'étais absolument persuadé d'y échapper. Voilà, donc ça c'est pour répondre à l'autre partie de ta question. Donc j'étais un peu couillon, puis ça s'est passé très vite, j'avais loupé le bac, j'en avais rien à foutre de passer le bac.
Oui, ça d'ailleurs, il y a des pages assez croustillantes. Ta pauvre maman qui croyait que t'étais allé juste la veille réviser parce que t'étais très sérieux avec un copain. En fait, t'as fait la fête toute la nuit, t'es arrivé complètement dans les vapes. je me souviens, je sais plus à quelle matière, mais il me semble que c'est une dame qui t'a mis un demi pour pas te mettre à zéro éliminatoire. Bon, voilà le niveau du personnage.
En mathématiques, où j'étais très fortiche d'ailleurs, et qui m'a dit, bah écoutez, le demi, c'est vraiment, je suis sympa, c'est pour que vous soyez pas éliminé d'office du... Voilà. Et parce qu'autrement, on était éliminé d'office avec un zéro. Mmh. Hein. Donc il m'a dit, ce sera pour l'encre, ce que disaient les profs à l'époque, quoi. Pour l'encre et pour le fait d'être venu aujourd'hui.
C'était sympa quand même.
Voilà, c'était sympa, oui. Enfin, j'ai pas eu le bac. Alors, n'ayant pas le bac,
ça c'est la suite de l'histoire. Laurent aussi qui t'a un peu poussé à dire, allez, c'est gagné.
Oui.
Quoi.
Ah bah lui, de toute façon, il m'avait dit, ben oui, puis t'as un oncle, on avait un oncle un peu dans ma famille éloignée qui était ancien colonel de l'armée, tu penses bien. Lui, il m'a dit, ben il va se démerder pour que tu sois réformé. Vu qu'il était quand même assez militariste dans l'âme, il n'a rien fait du tout. Enfin, toute cette conjoncture, lui aussi d'ailleurs, était pris au même piège. Il avait un an de plus que moi, mais il a devancé aussi, lui, l'appel, puisqu'il avait 19 ans. On pouvait le devancer avant 20 ans, quoi. Et lui aussi s'est fait avoir, et il s'est même retrouvé en Allemagne.
Oui, c'était pas marrant. Voilà.
Parce qu'en fait, on avait beaucoup de copains quand même qui réussissaient à y échapper. Alors les techniques, hein, tu les connais, je te les passe, c'était soit de venir en se faisant des fausses piqûres, en disant qu'on était junkie, quoi, la veille des trois jours. Arriver complètement décalé, déconnecté, ou enfin bref, il y avait des petits trucs que j'ai tous utilisés, mais qui n'ont pas marché, en gros.
Voilà. Oui, d'ailleurs, tu racontes un peu la personne, enfin, le noradé qui t'a reçu, quoi. Il n'était pas dupe. Quoi.
Je pense qu'il n'était pas dupe du tout. Alors, ce qui est très amusant, c'est que bon, je dois quand même signifier que c'est mon journal et que rien n'est inventé. Hein. Ça doit se sentir à la lecture. Non, j'ai absolument rien inventé. Et cette espèce de bonhomme, on m'a dit, de toute façon, vous n'avez pas de peau. On est en août 74, ça tombe très mal pour vous, appel décent ou pas appel décent, on a besoin de jeunes comme vous dans le contingent. Mauvaise pioche, vous auriez pas dû signer l'appel décent, mais vous auriez pas dû faire vos trois jours et devancer l'appel. On a besoin d'appeler et vous n'allez pas y échapper. Et puis bon, la petite phrase, tu la connais, enfin, c'était plutôt rigolo. Ce qui m'a sorti, il m'a dit, de toute façon, homo, on s'en fout que vous soyez homosexuel, il y en a dans l'armée. Et puis, puisque vous êtes homo, on va vous mettre dans l'armée de l'air. Bon, l'anecdote, tu l'as lu, vous serez content, vous aurez les fesses en l'air. Ce que j'ai trouvé...
Oui, je vois le niveau.
Aujourd'hui, on dirait que c'est une blague homophobe.
Mais c'est lui qui t'a classé P3, alors il a appelé social.
Il m'a quand même cassé P3. Ouais. Moi, il devait voir que j'avais vraiment pas envie de le faire. Et qu'effectivement, j'étais un petit peu une forte tête, mais... Oui, bah, classé P3. Mais
oui,
ça
ce qui n'est pas anodin, parce que justement, là, avant l'émission, tu m'as dit que ça t'a posé des problèmes plus tard. Donc, ça te suit toute une vie.
Ça suit toute une vie. Alors, moi, j'ai eu du pot parce que je n'étais pas dans la fonction publique.
Oui, d'accord.
Après. Mais par contre, dans une voie parallèle, puisque après, je voulais être steward chez Air France quand je suis sorti de l'armée, enfin, deux ans plus tard. Et Air France, ils m'ont gardé 6 mois et ils m'ont viré au bout de 6 mois, une fois que j'avais fait tous les tests, etc., que j'étais bon pour le service, là, pour dire, en tant que steward. Eh bien, le dossier m'a rattrapé. On m'a dit que vous avez un trop mauvais dossier, et pour cause, on en parlera plus tard, qui m'avait suivi et où j'ai été viré d'Air France. Quoi. Parce qu'il faut dire qu'à Air France, à l'époque, les DRH étaient tous des anciens de l'armée qui faisaient une deuxième carrière en tant que, on ne disait pas DRH à l'époque, mais de ressources humaines. Quoi. Et voilà, et donc ils étaient un petit peu partout dans la haute fonction, ces gens-là, puisque c'était leur deuxième carrière, puisqu'ils avaient la retraite assez tôt. Et voilà, ça m'a poursuivi effectivement, mais on parlait aussi avec le copain qui était dans le studio tout à l'heure et qui lui par contre a expliqué que ça lui a beaucoup plus nuit puisqu'il était normalien et que c'était pour rentrer dans l'administration France, il fallait avoir fait son service et là c'était clair et net. Hautes études ou pas, si le service n'était pas fait, on n'était pas, le diplôme n'était pas validé quoi. Donc c'était vraiment un handicap.
D'accord, ben je pense qu'on va passer une pause musicale. Donc pour les auditeurs, je vous rappelle où on en est. On a un P3, donc un inadapté social, anarchiste, homosexuel, enfin tout vous a rajouté si vous voulez, qui tombe dans les pattes de l'armée alors qu'il ne savait pas du tout. Alors je ne sais pas, théoriquement c'était pour 16 mois, non, à l'époque ?
Non, à l'époque c'était un an.
Ah, c'était un an. De toute façon, c'était un an.
Ça avait été juste réduit après la guerre d'Algérie.
Et donc j'imagine que tu étais catastrophé, mais tu vas nous raconter ça après la musique.
Musique qui était tout particulièrement destinée et en relation avec le fait d'écrire.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là, elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je mets
de la main gauche, Daniel Messia, sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Trou Noir.
Trou Noir, donc, qui reçoit un inadapté social P3, Patrick Schindler, donc, autour d'un livre Contingent rebelle, récit d'un réfractaire au service militaire dans les années 70 aux éditions L'Échappée. Donc, on en était au début août 1974, et à ta grande surprise et horreur, je pense, tu n'as pas été réformé, et donc tu étais parti pour un an de service militaire. Et j'ai pour situer ce que tu ressentais, en tout cas à l'époque, oui, puisque je rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie que c'est le bouquin est essentiellement tiré d'un cahier, enfin de notes que tu apprenais, que tu as écrites à mesure justement de ce qui t'arrivait. Et donc dans ces notes, tu disais justement début août 74. Dépenser autant d'argent public pour civiliser des gosses mal éduqués et leur donner le goût de tuer, voilà ce qui résume le service militaire. Et donc, tu arrives à la base aérienne d'Evreux. Donc, explique-nous alors.
Une horreur. Écoute, de toute façon, ça s'est passé tellement, tellement vite, le fait d'être embauché, entre guillemets, bon pour le service. Et j'étais parti en vacances, c'est marrant la vie parce que c'était quand même les années post-68 tard, donc je passe les vacances avec toute une bande de potes à Ourou, près des Cévennes, pas dans les Cévennes, oh là là, je vais me faire engueuler, mais juste à côté, en bas de l'Ardèche, et en Lozère en fait. Et là je rencontre pendant tout l'été les vacances idéales, quoi, avec des tas de copains. C'était à l'époque, quoi, des hippies qui partaient en communauté, enfin bref. Ah ouais. Et donc, le mois d'août, super sympa, et tout à coup, je me dis, mais à deux jours, je dis, c'est pas vrai, je pars à l'armée dans deux jours, quoi. Et soit je me sauve avec les avec les hippies, je donne plus de nouvelles et je m'enfuis, y compris à ma famille, etc. Et puis, la mort dans l'âme, j'y vais. Et je me dis, tant pis, maintenant c'est foutu, je suis piégé. J'avais pas le courage de faire comme certains camarades beaucoup plus courageux que moi. Et donc, eux étaient carrément plus que réfractaires, puisqu'ils étaient insoumis, quoi. Ils ont choisi la soumission.
Ceci étant, je pense quand même, il fallait. Pour que ce soit sérieux, il faut quand même être un peu dans un réseau. Si t'étais pas dans un... Il y en a qui sont partis comme ça, et à mon avis, ça a été très hard pour eux.
La plupart sont fait retrouver de toute façon, et en ont plus bavé que les autres, puisque en tant que justement qu'insoumis, ils se sont retrouvés dans des camps disciplinaires, choses comme ça. Et puis, du coup, je me suis dit, tant pis, je pars, quoi. Mais si tu te souviens, donc, le journal n'a pas changé. Hein. Tu me posais la question tout à l'heure, là, pendant la pause musicale. Non, on n'a absolument rien changé dans le livre. C'est le style de mon style de l'époque. Si tu veux, ce qu'on a rajouté, c'est les contextes historiques, tu vois.
Oui,
et le lien entre les choses, un petit peu bien. Voilà. Et puis surtout, enlever certains passages qui n'étaient pas très intéressants finalement à la lecture. Et enfin, c'est plutôt ce en quoi a consisté le travail, si tu veux, de mon dernier éditeur, là, qui a pris le bouquin. Et donc, si tu veux, j'arrive, et là, c'est atroce, parce que moi, je venais de vivre un peu les années Woodstock. La découverte de beaucoup de choses, puisque c'était vraiment la libération, les années de libération sexuelle. Enfin, on en a déjà parlé quand on avait un petit peu évoqué ces années-là. Et je me retrouve tout à coup, quoi. Enfin, c'est horrible, quoi. J'écoutais Janis Joplin, Jim Morrison, et je me retrouve dans l'enfer, quoi. Et surtout, ce qui... Bon, j'ai pas envie de déflorer le bouquin, parce que c'est... Je le raconte, je pense, d'une manière un peu plus vivante dans le livre, mais ce qui était horrible, c'est que c'était... Donc, je pars le 1er août, 1974, sous une pluie battante, et en fait, pour faire mes classes, qui duraient un mois, ou deux mois...
Deux mois, excuse-moi.
Deux mois à Évreux. Évreux, bon, j'ai rien contre Évreux, mais c'est pas la région et pas ce qu'il y a de plus je vais me faire des ennemis, je ne sais pas, mais ce qu'il y a de plus serein en Normandie, quoi. C'est peut-être une ville charmante, les environs sont très jolis, ça je reconnais, mais la base aérienne où je faisais mes classes avait rien de sympathique. C'était un petit peu un camp, quoi. Un camp avec des... Et puis surtout, on était très éloigné de la ville, la base aérienne était éloignée. Et puis là, voilà, tu rentres là-dedans et l'enfer commence à partir du moment où tu sors de l'autocar et que tu mets le pied dans la caserne. tout est fait pour. C'est-à-dire que bah, toi qui es un petit peu connu d'une façon un peu différente de la mienne, mais un petit peu plus privilégié puisque tu avais fait des études. Moi, j'en avais pas fait pour cause. Et donc, je me retrouvais avec les deuxièmes classes basiques, etc. Et puis surtout, ce qui fait... Moi, j'avais plutôt une vie un petit peu... comment dire? D'ailleurs, il y a des passages où je raconte un petit peu mon adolescence. C'est pas le sujet tout à fait du livre, mais où je m'étais fait un peu tout seul, où j'avais un petit peu forgé mon caractère. Enfin, je m'étais façonné une façon d'être, en tout cas à l'adolescence et après, en me disant que plus jamais je me ferais chier dans la vie et que surtout, bah, j'étais militant. Et l'horreur pour moi, c'était de passer un uniforme et d'abandonner tout ce pour quoi je m'étais battu depuis que j'avais échappé un petit peu au clan familial et que j'avais retrouvé ma mère à Paris. Et puis surtout que j'avais réappris la liberté à vivre, à revivre, je dirais. Et puis tout à coup, tout ça s'achève, quoi. C'est-à-dire que c'est atroce. Tu sais, tu rentres dans un univers, bah, t'as fait les trois jours. Bon, les classes, tu m'as dit un peu plus tard, mais t'es quand même entouré. Enfin, c'est une horreur, quoi. Voilà, je me tourne vers Monique qui n'a pas fait l'armée, mais t'imagines quand on te fout en uniforme, on t'enlève tout ton être, tout ce que tu es d'un coup. Heureusement que les filles ne le faisaient pas à l'époque. Hein. Il y avait que les engagées féminines, il y en avait très peu d'ailleurs. Et puis alors, elles servaient évidemment que de secrétaire. T'imagines bien dans un milieu machiste comme l'armée. Après, c'était un peu différent, c'est un peu changé ça d'ailleurs.
Mais dans ce que tu décris, il y a à la fois bah, effectivement l'encadrement, l'armée, on imagine d'ailleurs dans la première phrase, hein, tu dis bien pourquoi c'est faire, mais c'est aussi malheureusement une partie des appelés qui sont, bon là, même ils sont très contents d'être là, ça les sort de je sais pas trop quoi, bon ils peuvent se souvenir à la gueule tranquille ou pas, enfin bon, tu
ils
vois.
Ils échappent à leur famille.
Et, voilà, échapper aussi à leur famille pour certains, enfin je leur en veux pour pas, certains, mais enfin oui. C'est assez pesant quand tu le décris toi arrivant, y compris. Apparemment, certains avaient bien senti que tu n'étais pas du tout sur les mêmes positions et tu as reçu des insultes et autres. Oui. Et ça aussi, tu avais du mal à le supporter.
Alors ça, bon, bah, j'étais un peu habitué aux insultes, donc ça ne me dérangeait pas trop. Ayant toujours été un peu hors des rangs, je dirais. Mais non, c'est vrai, ce qui m'a le plus, que j'essaye de décrire dans le début du bouquin, c'est le fait de se sentir isolé. J'étais un petit peu tout seul finalement, j'avais l'impression. Puis alors, ce qui est quand même terrible, c'est que bon, moi j'avais les cheveux longs avant de partir.
Oui, ça dure pas quand t'arrives.
On n'était pas beaucoup. Déjà, je me retrouve dans le car, j'avais un look un peu différent de mes petits copains. Et puis, bon, bah après, on se retrouve tous semblables dans le même uniforme. Et là, on abandonne toute individualité. Et en fait, j'ai quand même mis. Je me suis senti complètement paumé pendant au moins une semaine, quoi, où tu n'es plus rien, quoi. Tu n'es plus rien, on fait tout pour que tu sois plus rien, pour que tu n'existes plus. Et j'ai peut-être mis 8 ou 10 jours à réagir et me dire je vais pas continuer comme ça, il faut absolument que je trouve des complices, quoi. Il y a bien des gens comme moi, on était quand même, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais on était bien de 200-300 sur la base à faire le clash en même temps, peut-être 200, hein, faut pas, peut-être pas exagérer les chiffres, mais je pense 200, répartis dans plusieurs bâtiments. Et je me dis, il doit bien exister des gens comme moi, quoi, je suis pas le seul. En fait, j'ai bien fait de penser ça, parce que très vite, à mon grand étonnement, j'ai trouvé deux personnes, dont un signataire de l'appel des 100, un mec de la Ligue communiste, parce qu'il faut dire que cette...
Philippe, j'ai noté son nom.
C'est ça, exactement. Faut noter qu'à l'origine, donc je parle de ça, puisque moi j'étais signataire de l'appel des 100, c'est effectivement les trotskistes qui étaient à l'initiative de cette circulaire. Qui a eu beaucoup de succès. Il faut dire que quand ils l'ont sorti le 1er mai 1974, donc moi je l'ai signé juste après, quand moi je l'ai signé, on était déjà 1000 signataires. Donc je me dis quand même, statistiquement, le hasard va bien faire les choses, et bien, il va bien y en avoir un couillon comme moi qui a signé cet appel des 100, et on va essayer de se regrouper. L'appel des 100, effectivement, c'était pas radical, c'était pas être insoumis, c'était en tout cas réagir une fois qu'on serait dans l'armée, s'organiser. puisque les premiers comités de soldats ont commencé à se construire à partir de ce moment-là, et c'était le but affiché. Alors, quand je dis que c'était les communistes, comme je le dis un peu dans le livre, on a retrouvé les archives, et on est à peu près tous d'accord aujourd'hui qu'il y avait 80%, disons, à l'initiative des trotskistes, mais il y avait quand même des individus isolés.
Oui, cet aspect-là est expliqué plus en détail dans le livre qu'on va le faire dans l'émission, mais il faut dire que la Ligue communiste, voire d'autres trotskistes d'ailleurs, avait déjà plus ou moins créé des noyaux, etc., avait préparé ça. Quand je dis ça, c'est plutôt positif. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas lancé. D'ailleurs, le petit exa de l'appel des 100, je crois que c'est 100 soldats prennent la parole, mais ils avaient déjà des contacts, ce qui explique qu'il y a eu des comités de soldats qui se sont créés dans la foulée. Mais ce qu'il y a d'intéressant, à la fois cette préparation, c'est que ça a touché beaucoup plus large que les trotskistes, des gens comme toi, mais d'autres.
Il y avait le PSU avec.
Il y avait le PSU, effectivement, à l'époque, ils étaient beaucoup.
Ligue et des Mao. Et des maoïstes.
D'ailleurs, tu vas rencontrer des Mao ou ex-Mao à l'occasion de tes pérégrinations dans ces casernes.
C'est vrai que nous, les anarches, comme d'habitude, on n'est pas très centralisés. Donc, il y avait des anarchistes signataires.
Oui.
Moi, à l'époque, d'ailleurs, j'étais aussi au Monde Libertaire déjà, puisque j'avais eu la chance d'être au comité de rédaction. C'était l'époque de Maurice Joyeux. On faisait des articles, je me souviens, dans le Monde Libertaire, sur la création de ces comités de soldats. Mais en tout cas, on n'était pas signataires. En tant qu'organisation.
Faut bien dire aussi que c'était une bonne chose, etc. Les soldats s'organisent et puis rien ne les empêchait de dépasser le contenu justement de cet appel. C'était un appel certes utile, mais réformé. C'est-à-dire les soldats, il faut qu'on ait mieux à manger, il faut qu'on puisse lire la presse, ça c'est très bien.
Une revendication syndicale, on dirait. Donc ils ne remettaient pas en cause, le fondement.
Alors que les anarchistes étaient plutôt sur l'idée d'un refus de l'armée, y compris ça représente politiquement, ce qui explique qu'à la fois des gens comme toi pouvaient signer cet aspect-là, mais avoir des options qui allaient plus loin que... Voilà, c'est pas une critique de ce qu'a fait la Ligue, parce que le travail de préparation qu'ils ont fait a quand même débouché sur pas mal de choses.
Hein. Bien sûr. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette initiative, donc ça, t'as vu dans le bouquin, on avait essayé de refaire des recherches historiques assez précises, et justement, on s'aperçoit qu'il y avait eu déjà des petits manquements à l'armée qui ont fait qu'il y a eu une prise de conscience juste avant 1974, donc disons à peu près en 1972, je crois que ça a commencé en 1972, où on s'est aperçu qu'il y avait des morts dans le contingent, des appelés. Et donc c'est là où on a découvert que l'armée déjà avait des tribunaux fermés, ce qui était quand même quelque chose d'assez et imperméable à la société civile. Donc ça a quand même fait réagir et qu'il y avait eu de nombreux abus, donc déjà dont déjà des morts. Et il y en aura, on va voir que ça va se précipiter. D'ailleurs, c'est une chose que je m'explique pas très bien. À partir du moment où on a lancé ces comités de soldats, on a lancé les grèves de la faim dans les casernes, etc. On va sûrement l'aborder. Je veux qu'on aille un petit peu plus vite. Hein. Mais disons que ce qui est très amusant, et tu as pu le remarquer dans le livre, c'est que plus ce mouvement se développe, plus il se passe de choses arbitraires dans l'armée. Et ça, je ne me le suis pas vraiment expliqué. Ils auraient plutôt dû se calmer, sachant qu'on s'organisait. Et au contraire, on s'aperçoit que pendant ces deux années, il y a énormément d'abus, y compris des morts et des viols sur individus qui vont faire que le mouvement va prendre de l'ampleur.
Est-ce que ce n'est pas aussi parce que, justement, il y avait quand même un minimum d'organisation et l'information circulait mieux aussi, hein.
Exactement.
Je pense qu'il y a des choses qui se sont sues à cette époque-là et qui pouvaient peut-être se passer à deux époques, mais qu'on ne savait pas, qui restaient confinés dans les casernes, quoi.
Bien vu.
C'est possible,
très, très bien
hein,
vu. Je pense que ça aussi, effectivement, ça a dû absolument, puisqu'il y a deux journaux qui ont commencé à être édités par les comités de soldats, à l'intérieur relayés par l'extérieur, mais à l'intérieur des casernes. Et effectivement, on commençait à mettre au grand jour ces choses qui n'étaient pas connues avant.
Oui, il y avait Soldats en lutte, je crois.
Oui, Soldats en lutte, ça c'était la Ligue. Et il y avait aussi l'appel des casernes ou un truc comme
ça.
Et il y en avait deux, trois, quoi, qui étaient un petit peu moins importants. Mais,
permettait de faire passer des informations, on faisait passer le journal, etc.
Oui,
c'est sûr qu'il y avait cet aspect-là. Hein. Mais pour revenir, là, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui est peut-être plus anecdotique par rapport à ces luttes de comité de soldats, mais quand même, c'est que en fait, vous êtes retrouvés, comme tu dis, finalement à 6, le groupe des 6, si je puis dire. On vous a logés ensemble, si je me souviens bien. Et tu parles des divers compagnons que tu as pu avoir, appelés. Et ce qui m'a bien plu, c'est qu'à un moment, vous échangiez, comme vous en mettez, vos goûts littéraires. Donc j'ai noté, il y en a un, Philippe, qui était la Ligue communiste, c'est plutôt les bouquins politiques, mais bon, en cranchant chat, il fallait pas trop lui en parler. Il y en a Eric qui était plutôt sur tout ce qui était psychanalyse, Reich, etc. Luc était les polars, notamment Nada, Manchette et tout ça de l'époque. Alors moi j'en suis à Luc. Après Antoine, science-fiction, hein, et Marc, littérature et BD. Non, ça m'a bien plu, quoi. C'était aussi une façon de continuer à exister, de parler des choses qui vous passionnaient.
Et hélas, alors là c'est dommage parce que tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vrai aussi que c'était un petit peu un milieu donc de gens privilégiés, ouais, qui arrivaient à se révolter, parce que quand tu vois là, c'est exactement l'image un petit peu intellectuelle de l'époque, et je dirais des lycées, quoi, parce que effectivement la plupart de nos copains avaient pas cet accès à la culture que nous on avait, et peut-être étaient beaucoup moins informés que nous, et à partir du moment où nous on leur expliquait que ça existait et qu'on avait les moyens de résister et de s'organiser, ils nous envoyaient chier en disant vous allez foutre la merde, en fait ils avaient la trouille. Et, mais tu vois, ça prouve bien, et c'est vrai que quand tu regardes un peu ce que on était tous un peu différents, mais quand même dans une mouvance un peu un petit peu intello de l'après 68, où tu retrouves bien les tendances, et c'est bien ce que tu viens de dire, qu'il y avait un passionné de SF, l'autre de... Mais tu vois quand même qu'on regroupait finalement, au final, il y avait très peu de gens qui arrivaient d'un milieu, je dirais, isolé en campagne ou dans des régions un peu moins privilégiées, je dirais, que les grandes villes.
Enfin, ceci étant, je n'étais pas milieu privilégié. Disons que tu as eu une vie assez particulière que tu racontes un petit peu quand tu étais jeune, assez dure, et que notamment tu as rencontré la littérature, Rimbaud et plein de choses, et tu t'es construit, si tu veux. Mais ce n'était pas privilégié au sens financier et autre. C'est ça que je voulais dire.
Ah oui, attends, ce n'est pas péjoratif. Quand je dis ça, moi aussi, j'étais un peu dans l'Oise et tout, donc je venais aussi de la campagne et j'aurais pu... Bon, le fait est que oui, parce que j'avais vécu dans mon adolescence, c'est la littérature qui m'a m'a sauvé de la délinquance.
T'es arrivé, t'étais déjà quand même construit beaucoup plus sans doute que d'autres, qui d'ailleurs vous traitaient de sale petit bourgeois. Est-ce que tu, quand même, ça t'a pas trop supporté,
mais ça t'a vu l'anecdote. Oui, c'est pour ça que je reparle du passé d'ailleurs.
Oui, je crois que d'ailleurs tu as foutu ton poing sur la gueule à cela. Si t'as valu d'ailleurs, on a dû te mettre en taule. Je m'en rappelle plus parce que t'as fait tellement de séjours en prison. Non, pas ce coup-là.
Non, je crois pas ce coup-là. Celui-là, je l'échappe à la taule, là, quand même.
Non, mais pas tout de suite.
Non, il faut que je fasse des excuses.
D'accord.
Donc, on a fait la grève de la faim.
Voilà, mais la grève de la faim, mais rapidement, je sais pas, quelques semaines.
Le jour même, enfin, on décide de le faire. On se rend les 6, là, on se dit, allez hop, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, voilà, on annonce. Alors, on avait quand même un peu de stratégie, on l'annonce autour de nous, quoi. Et on dit à tous les jeunes qui étaient autour de nous, venez nous rejoindre, tu penses? Bon, ben non, on est resté que les 6.
Il n'y en a aucun qui vous a. Mais il y avait quand même certains qui
sympathisaient. Si, parce que tu vois, on n'était que 4 à la base, et il y en a quand même 2 qui sont revenus. Donc on a fini par être 6.
D'accord.
C'est, nous sommes 1, nous sommes 2, nous sommes 1022, quoi. C'était un peu le truc. Et on se retrouve à 6. Il y a une stratégie de la hiérarchie qui fait qu'au départ, on est isolé. Nous, on se dit... le mieux pour lutter, c'est de se regrouper dans la même chambre.
Mais oui, c'est ça.
Au début, ils ne sont pas d'accord. J'imagine qu'ils en parlent dans les instances. Et ils finissent par nous accorder le droit d'être ensemble. Certainement en se disant... Parce que tu sais, t'as vu, c'est dans tout le bouquin, enfin dans tout le... Toute mon année de militaire, c'est que de la stratégie hiérarchique de l'armée pour savoir comment on va gérer ces petits cons qui nous font chier et qui sont un rouage dans le système. Mm-hmm. Là, donc, la stratégie, c'était de nous regrouper en disant peut-être qu'ils feront moins... ils attireront moins les autres si on les regroupe entre eux. Voilà.
Mais enfin, il y avait quand même des choses. D'abord, c'est pas très marrant de faire la grève à la fin. Et en plus, vous les obligez d'aller à la cantoche au début.
Ça, c'est sadique,
c'est quand même assez bichelard. J'en rigole, mais c'est pas drôle du tout, j'imagine.
Non, c'est pas drôle du tout.
Surtout, vous n'étiez pas des spécialistes de la grève de la faim. Lanciez là-dedans, je ne sais pas si quelqu'un avait déjà eu l'expérience.
Alors, moi, j'avais eu l'occasion de l'approcher de près dans mon militantisme, puisque quand j'étais dans le 14e, une année avant, sans l'enlever du bouquin, mais j'avais soutenu une grève de la faim des travailleurs de foyer d'immigrés, et je les avais accompagnés pendant une grève de la faim. Je savais comment ça se passait. Et en fait, c'est moi qui ai conseillé à tous mes petits copains les petits trucs que j'avais appris. D'ailleurs, c'était, pour les gens qui connaissent le 14e, c'était rue Jacquier. Dans le 14e, c'était un foyer qu'on avait soutenu et on avait gagné avec cette grève de la faim. Donc c'était et des immigrés et des soutiens d'immigrés qui avaient fait cette grève de la faim, et on savait maintenant, enfin on avait quelques petits trucs pour supporter ça, c'est-à-dire qu'on imposait le fait de pouvoir boire de l'eau sucrée pour tenir le coup. et des petits trucs comme ça donc, que j'ai réussi à faire appliquer grâce à la complicité de l'infirmerie, là où on faisait les classes,
Olivier,
qui nous ont un peu soutenus quand même dans cette démarche.
Il vous fallait passer des infos aussi.
Il faut dire qu'ils étaient sympas, l'infirmerie. Je te le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait les gens qui étaient médecins, alors surtout dans l'armée de l'air, je suppose, peut-être pas partout, mais souvent n'avaient pas les moyens de faire médecine dans le privé. Donc ils s'engageaient pendant 5 ans, ils devaient 5 ans à l'armée. Et là, on est tombé sur effectivement le cas de ce, comment dire, de ce gradé. Donc du service de médecine de l'armée, dont c'était le cas et qui était plutôt favorable aux,
à l'implication,
qui nous a un peu protégés et un petit peu pris sous sa coupe, quoi. On a eu de la chance.
Avant une pause musicale, peut-être quand même dire que tu as réussi à être exempté de beaucoup de choses.
Ah ben là, c'est dans les classes, oui.
T'as été exempté de saut parce que, soi-disant, tu t'étais foulé la cheville, et aussi pour la marche aussi. Et t'as été exempté de tirer parce que t'as failli flinguer tous les radés ou je sais plus quoi. Enfin bon, disons que tu t'es retourné avec le fusil plus ou moins, c'est ça ?
Je crois que j'étais un sacré loustique quand même. C'était pas facile là, déjà.
Quand même.
Bon, toi, ça t'a fait rire parce que bon, déjà t'as vu que j'avais déjà été viré du lycée pour agitation et choses comme ça. Donc j'étais pas mes premiers coups, je dirais, pour. Bon, je dirais, on pourrait dire des conneries maintenant, mais je pense pas que c'était des conneries. Il y avait quand même un fond assez militant et avec une prise de conscience quand même antimilitariste profonde. Et je me suis dit, je vais pas me faire avoir comme ça. Et à chaque fois, je mettais de la très mauvaise volonté à tout faire. Donc à partir du moment où j'arrête la grève de la faim, on me réintègre dans les classes normales. Après, je crois que j'ai fait 12 jours, 12 ou 13 jours ou 14. On n'a pas bien fait les comptes, quand même. À peu près, c'est ça, la louche, quoi. Alors que certains de mes camarades ont fait beaucoup plus. Et on finit dans un triste état, d'ailleurs. Et donc, moi, je ne me désolidarise pas pendant le fait que je recommence à faire mes classes. Je les aidais au quotidien. Évidemment, solidarité oblige. Et là, je fais exprès de tout rater, quoi. Mais on est tombé. Toi, ça t'a beaucoup fait rire sur un complice, un sergent qui était censé... Qui était vraiment un mec complètement allumé. Je ne sais pas ce qu'il foutait là à l'armée. C'était un Indien. Donc, des anciens territoires colonies françaises. Donc, tu sais, il y avait encore des liens avec l'armée.
Qui était adorable, par exemple.
Oui, alors on l'avait foutu en formation avec les appelés, mais je pense qu'il n'était pas plus motivé que nous. Il avait surtout un très bon fond, et c'était habilitaire, mais il avait, faut bien le dire, un très bon fond, et j'ai rien inventé. C'est vraiment un personnage... je ne pense pas qu'il soit resté longtemps à l'armée, mais qui était aussi fou que nous, et qui, en fin de compte, buvait... Est-ce qu'il faisait exprès ça? Je n'ai jamais su. Est-ce que c'était un jeu pour lui? Ou est-ce qu'il avait des convictions profondes qui étaient un peu d'arrêter de faire chier les jeunes comme nous et d'être complice avec nous? Toujours est-il qu'il marchait dans tous les coups et moi, il m'a vachement aidé à être, en fin de compte, ajourné de toutes ces emmerdes sur lesquelles on me formait. Et je mettais quand même beaucoup de mauvaise volonté, quoi, faut bien le dire. Voilà.
Voilà, donc tu as terminé tes classes et on va voir après ce qui se passe. Donc deux mois de classe et tu as quand même eu un beau certificat élément à surveiller. C'est ça.
On va peut-être pas raconter tout le bouquin parce qu'après.
on va voir, on va voir. Monique, une musique.
Of the time, what is yours cannot be mine, and I'm bored by dreams, bored by dreams. I can't say the words I mean, make myself go through the line. Does the payment fit the crime if I'm bored by dreams? Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then. Now we are the same. Last day. Toujours dire la vérité. every artist a certain age. With every artist a certain age. Every artist works with injury.